Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous. Cet attentat suicide en Libye, cela s'est passé à Joufra. Cela fait longtemps qu'une voiture piégée n'avait pas explosé ainsi contre un poste de sécurité tenu par des forces fidèles à Haftar. Il n'y a pas de victimes qui sont à déplorer, ni parmi les forces qui étaient armées, ni parmi les civils. Mais c'est malgré tout surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel acte qui soit commis, qui pour l'instant n'a pas été revendiqué. Alors on pense bien évidemment au groupe État islamique, mais pourquoi interviendrait-il ici? Il y a une cellule du groupe État islamique qui a été arrêtée, qui a été démantelée ces dernières semaines, mais c'est vrai que ces dernières années, les activités de l'EI étaient quand même, somme toute, en berne. Donc, est-ce qu'il y aurait une résurgence? Comment peut-on s'expliquer cette attaque suicide qui a eu lieu donc à Zala, près de Joufra? Ce sont toutes les questions qui se posent et sur lesquelles travaillent les forces de sécurité pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Des tensions alimentaires, des tensions sur la disponibilité des baguettes de pain à 10 dinars. Il est devenu quasiment impossible aujourd'hui de trouver dans les boulangeries de l'Algérois ces baguettes de 10 dinars qui pourtant devraient exister. Et aujourd'hui, on ne peut trouver dans les boulangeries que des baguettes entre 15 et 20 dinars, donc pratiquement le double. Que se passe-t-il? La presse algérienne s'en inquiète. Elle a bien évidemment enquêté et on se rend compte que la farine qui est subventionnée par l'État algérien, cette farine n'est pas véritablement différente pour les baguettes qui sont vendues 10, 15 ou 20 dinars, mais simplement les marges sont trop faibles pour les boulangers, ce qui fait qu'ils préfèrent fabriquer, en tout cas vendre à 15, 20 dinars. Cela crée une tension parce qu'il y a des personnes qui sont dans une telle situation financière qu'ils ont besoin de pouvoir acheter du pain pas cher. Et aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Donc, il y a des demandes qui ont été faites de telle façon à ce que l'État puisse intervenir pour essayer de restituer la donne initiale, à savoir qu'il puisse y avoir du pain peu cher pour l'ensemble des personnes qui souffrent de la crise économique. Donc la baguette de pain à 10 dinars et pour l'instant, les autorités algériennes n'ont pas répondu à cette demande. Il ne pleut pas souvent en Mauritanie, mais lorsque le ciel se gorge d'eau et lorsque les trombes s'abattent sur le sol mauritanien, il y a des décès, il y a des dégâts matériels qui sont à déplorer. Les récentes précipitations ou entraîné la mort par noyade de deux jeunes qui étaient dans les eaux du fleuve. Cela s'est passé près de l'arrondissement de Lake Seiba. Donc c'est là où ces deux jeunes ont pu être retrouvés, ainsi que le corps d'une femme près d'un étang. Il y a aussi beaucoup de destruction des huttes dans le quartier de Nezaha, dans la commune de Guérou, là, qui ont été absolument détruites. Et puis des ponts, sont certains étaient en construction et qui, eux aussi, ont été emportés par les eaux. Sur Aleg, on signale tout de même un bilan tout à fait important, à la fois 97 habitations et puis aussi des poteaux électriques qui reliaient des villes, qui reliaient des villages, et aussi les routes qui ont énormément souffert de cette montée soudaine des eaux, parce que le sol étant sec, le sol étant habitué à vivre sous le soleil, cette terre n'a pas l'habitude d'absorber des eaux de pluie importantes. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu ces intempéries sur la Mauritanie et qui ont causé des dégâts. Les autorités locales, régionales et nationales se sont emparées de ce dossier pour essayer de le résoudre le plus rapidement possible et que l'on puisse retrouver des maisons et de l'électricité. Au Liban, c'est un coup dur pour les consommateurs, c'est un coup très dur. Le Liban a décidé d'augmenter de 70% le prix des carburants, donc ceux-ci ont quasiment triplé en l'espace de 2 mois. On peut se référer à cette décision de la Banque centrale, c'était en mois de juin, qui avait décidé de réduire les subventions étatiques parce que l'État n'arrivait plus à subventionner le carburant. Celui-ci coûtait trop cher à l'État, les caisses de l'État étaient déjà vides. Donc on s'est retrouvé dans une situation absolument désastreuse où la Banque centrale a arrêté de subventionner la ressource qui est celle du carburant, nécessaire à la vie économique du pays. Et bien résultat, plus de 70% d'augmentation des prix, ce qui est tout à fait considérable. Et non seulement ça coûte très cher, mais qui plus est, la denrée est toujours extrêmement rare. On se souvient qu'il y a eu en fin de semaine dernière cette annonce qui a été faite par le mouvement du Hezbollah, qui a dit qu'il allait faire partir un pétrolier depuis les côtes iraniennes aux soutes pleines de pétrole et que celui-ci devrait rejoindre prochainement le Liban. Était-ce un effet d'annonce? Était-ce un coup politique? Est-ce qu'il y a eu une action discrète de l'Amérique, puisqu'il semblerait que ce pétrolier ne soit pas parti des côtes iraniennes? Donc on attend toujours d'avoir des informations précises et clairement sourcées pour savoir si la défiance de Nasrallah à l'égard du train de sanctions économiques américains sur l'Iran a été menée jusqu'à son terme, ou est-ce que finalement le Hezbollah libanais a dû faire marche arrière et revenir à une position beaucoup plus modeste qui est la sienne. C'est officiel et l'Égypte en a informé tout à fait officiellement les autorités de la bande de Gaza. Le point de Rafah est fermé depuis aujourd'hui. Cela fait suite au climat de détérioration sécuritaire qu'il y a sur la bande de Gaza, avec toujours des affrontements, avec toujours des actes de contestation qui sont réprimés par les forces de sécurité israéliennes. Et les relations aujourd'hui entre Israël et l'Égypte sont telles qu'il y a des coordinations qui sont faites, et donc l'Égypte a décidé pour quelques jours, vraisemblablement, peut-être même quelques heures seulement, en tout cas d'avoir ce geste politique de dire « nous fermons le point de passage de Rafah ».
Écho, 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 écho.
Notre escale du jour nous mène en Turquie, dans la capitale, avec ces dernières prises de position de la diplomatie turque qui se dit disposée à aider les talibans dans leur gouvernance nouvelle qui est la leur. Alors déjà, les Turcs avaient proposé de prendre le contrôle de l'aéroport international. Cet aéroport aujourd'hui est sujet aux scènes de départ de gens qui veulent prendre l'avion, qui veulent quitter le pays. Les talibans d'ailleurs ont annoncé qu'il y aurait une date butoir et que les opérations d'évacuation devront tôt ou tard prendre fin. Alors est-ce que les Turcs vont pouvoir réussir à prendre le contrôle de cet aéroport? Ce serait quelque chose de diplomatiquement assez fort, puisque toutes les forces étrangères partiraient, sauf elles. En vertu de quoi la Turquie se verrait-elle intervenir? Il y a un accord de partenariat stratégique et d'amitié qui avait été signé en avril 2018, qui avait été approuvé par le Parlement turc. Et cet accord prévoit tout un tas de dispositifs de coopération qui sont dans l'ordre économique ou sécuritaire. C'est d'ailleurs cet accord qui permet aussi aux Turcs d'être présents en Libye. En tout cas, c'est ce type d'accord. Donc voilà, sur la base de ce texte qui a été donc voté, accepté par le Parlement, les Turcs se verraient bien manifester une présence sur le terrain, à la fois pour en être une puissance agissante, parce qu'il y a beaucoup de chantiers de reconstruction qui sont à conduire en Afghanistan. Les Chinois se prépositionnent. Les Chinois avaient déjà rencontré une délégation de talibans il y a de cela quelques semaines. Le pays est riche en matières précieuses, à la fois les diamants, mais aussi des éléments qui entrent dans la composition des outils modernes de nos jours. Par exemple, le lithium, qui est une denrée tout à fait importante et voire nécessaire à la vie informatique, à la vie de nos sociétés high-tech. Donc, à la fois, il y a un intérêt économique évident. La Turquie voudrait se positionner sur le marché de la reconstruction. Beaucoup de choses à faire, pas tant sur Kaboul, mais sur les grandes villes de province, et notamment la connexion, les routes. Et on se souvient que les Turcs ont construit de nombreuses routes au Maghreb, donc les Turcs pourraient aussi faire valoir des compétences en ce domaine. Voilà pour le volet économique. Et puis sinon, pour le volet politique, bien évidemment, c'est se positionner comme étant un interlocuteur privilégié des talibans. Il y a eu des déclarations faites de part et d'autre, Turcs et talibs, disant qu'il n'y avait pas de réserve particulière par rapport à la façon dont l'autre pratiquait l'islam, envisageait l'islam comme étant un point d'importance dans l'organisation sociétale de leurs projets politiques respectifs. Donc ce serait pour la Turquie s'imposer comme étant une puissance médiatrice, une puissance qui a l'oreille des talibans, une puissance aussi qui pousse à profondeur de champ au-delà du Maghreb, au-delà de l'Afrique et qui s'enfonce ainsi tout doucement vers les montagnes d'Asie centrale.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.